bienvenue dans le podcast La Voix des mots. Je suis Mauna Vigam, alias Mauna Poésie. J'écris et lis depuis que j'ai 6 ans. Fin 2020, sur un coup de tête, j'éditais seule mon premier livre intitulé « Au-delà de nos mots ». Le début d'une grande et folle aventure. Depuis, je construis ma vie d'autrice petit à petit et je partage mes découvertes dans les mondes de l'édition et de l'auto-édition. Cette année, je fais partie des lectrices de la maison d'édition Le Duc. Je te propose donc de suivre également cette aventure. Tu découvriras aussi mes échanges avec des écrivains ou avec des professionnels de l'édition ou de l'auto-édition pour t'aider toi aussi à construire un projet d'écriture qui te ressemble. Pour soutenir ce podcast, laisse une note et un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Et si tu as des questions, envoie-moi un message sur Instagram ou par mail. Merci à toi pour ton temps et bonne écoute.
Vous entendez quelques bruits pendant que je parle dans cet épisode, c'est mon livre que j'étais en train de manipuler en même temps. Je pensais pas que ça allait faire autant de bruit, mais en même temps que je vous parlais, je regardais son contenu pour appuyer mes propos. Et il se peut aussi qu'à un moment vous entendiez la machine à laver de mon voisin. Désolée pour ça, c'est ce qui arrive lorsqu'on enregistre des épisodes en pleine journée, au lieu de le faire très tôt le matin ou très tard la nuit. Bonne écoute. J'espère que vous allez bien. Depuis le dernier épisode, j'espère que par chez vous il fait beau, que le printemps montre le bout de son nez un peu plus rapidement que par chez moi. Bref, j'espère que vous profitez du beau temps ou que ça ne devrait pas tarder. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'épreuves de livres. Il y a quelques temps, j'ai reçu l'épreuve de mon second livre, donc que je vais publier uniquement dans un premier temps sur Amazon. Je verrai si je le publie ailleurs, c'est un sujet qui est en cours de réflexion dans ma tête au moment où en tout cas je vous parle. Donc j'ai reçu l'épreuve de mon livre, et je me suis dit que j'allais faire un épisode de podcast dessus parce que j'ai quand même checké pas mal de choses, et je m'attendais pas à devoir modifier autant de choses en le recevant. J'avais quand même fait pas mal le taf, pas mal de mise en page, de modifications, des textes, des agencements, de police, de faire en sorte que tout soit centré, de checker les couleurs, etc., etc. Et au final, j'ai quand même passé une bonne semaine pour reprendre quelques petits éléments, dont l'ajout de pas moins de 40 illustrations faites de mes deux mains. Voilà, je tiens à ce que l'audience, c'est-à-dire juste moi, salue cette prestation, parce que dans le premier livre, donc dans Au-delà de nos mots, je n'ai absolument rien dessiné. J'ai trouvé des personnes pour dessiner ce que j'avais dans la tête. Et depuis, enfin surtout depuis 2023 en fait, depuis 4-5 mois, je me suis mise un peu à dessiner comme ça, de temps en temps, sachant que je peignais aussi un peu avant, mais j'ai réussi à faire quelque chose qui passe, j'en suis encore étonnée, mais c'est pas le sujet de cet épisode, ce n'est pas le sujet de cet épisode, je reviendrai peut-être une autre fois sur mes prestations en tant qu'illustratrice. Aujourd'hui, je voulais vous parler donc de cette épreuve que j'ai reçue. Pour Au-delà de nos mots, chose étrange, je n'avais pas commandé d'épreuve. J'ai commandé un exemplaire auteur, pour quand même m'assurer que le truc ressemblait à quelque chose, faut pas déconner, et puis pour pouvoir aussi tout simplement faire la promotion de mon livre. Et là, j'ai quand même commandé un exemplaire, une épreuve, donc avec une barre grise devant qui indique bien qu'il est non destiné à la vente, pour avoir un aperçu plus concret avant de lancer mon livre. Alors, pourquoi est-ce que c'est important, à mon sens, d'avoir une épreuve de son livre? Premièrement, il y aura toujours une différence entre ce que vous voyez et la réalité. Moi, en recevant l'épreuve, j'ai regardé la couverture, j'ai vérifié que les couleurs étaient conformes à ce que je souhaitais, parce que c'est déjà arrivé, même avec Au-delà de nos mots, qu'une imprimante se trompe, m'envoie un paquet de livres avec une couleur un peu plus orangé que le jaune de mon livre. Autant vous dire que j'étais pas contente et j'ai demandé un petit geste. Et là, l'idée, c'était déjà de vérifier que entre ce qu'il y a à l'écran et la réalité, qu'il n'y ait donc pas de différence, si vous avez des couleurs sur votre livre, c'est important de checker comment ça rend dans les faits. Si vous avez choisi un papier mat brillant, c'est important de regarder aussi ce que ça donne en réalité, si ça c'est proche de ce que vous souhaitiez, si c'est conforme à ce que vous vouliez. C'est important, en fonction du format que vous avez choisi du livre, de vérifier aussi que le format est le bon. Parce que moi, donc je suis sur Amazon, là, j'ai pris un format 13.9 par 21.7, si je dis pas de bêtises, qui est un format d'Amazon. J'ai découvert récemment qu'on pouvait faire des formats personnalisés. Je vous avoue que je n'ai pas creusé le sujet. Je suis restée sur quelque chose de plutôt simple pour pas risquer de faire de bêtises. Même si moi j'ai une préférence complète pour le format A5, donc quand je passe via d'autres imprimeurs qu'Amazon, mes livres sont au format A5, qui est donc un peu plus petit en hauteur et un peu plus grand en largeur. Et je trouve ça bien plus joli. C'est important aussi, en fonction du type de papier que vous avez choisi, de regarder ce que ça rend. Moi j'ai choisi un papier crème, même si ma couverture est blanche. Spoiler, elle ne va peut-être pas le rester. Donc j'ai choisi un papier crème et c'est important de voir ce que ça donne. Alors donc j'ai regardé la couverture, j'ai regardé la quatrième de couverture également. Donc de regarder si les polices sont les bonnes, si les espaces entre les différents blocs de texte sont les bons, donc entre la citation que j'ai souhaité mettre sur cette quatrième de couverture, le résumé du livre et un petit texte de présentation me concernant. Donc il y avait pas mal de polices différentes et dans les faits je me suis rendu compte que c'était pas forcément pertinent d'avoir autant de polices différentes, qu'il fallait rester sur quelque chose d'un peu plus cohérent. Donc ça aussi je vais le changer, j'ai vérifié que le code barre s'imprimait bien, qu'il n'avait pas, que la qualité là la bonne. J'ai aussi regardé le dos du livre, donc vérifié qu'il était bien centré, que l'espace entre les différents corps de ce dos, donc à savoir mon nom de plume, le titre du livre et le logo de ma maison d'édition, et ma modeste maison d'édition Mauna Poésie, hein, on fait ce qu'on veut, on a le droit. Voilà, j'ai vérifié que l'espace entre ces trois éléments était le bon. Et une fois que ça s'était fait, que j'étais rassurée sur que je voyais ce que j'allais modifier, en tout cas sur cette couverture complète, j'ai pris le temps de regarder l'intérieur du livre. Et là, surprise, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, les textes sont un peu gros. Je m'attendais pas à ça, je pensais que ce serait un peu plus petit. J'ai pris donc l'exemplaire d'Au-delà de nos mots, et là je me suis rendu compte qu'en fait j'avais donc mis tous mes textes en police 12 sur ce deuxième livre, donc qui s'appelle Tant que j'aimerais. Il était peut-être temps que je vous donne le titre de ce deuxième livre, donc il s'appelle Tant que j'aimerais. Et dans le premier, donc Au-delà de nos mots, les textes étaient en fait en police 11. Donc je me suis rendu compte que j'avais pas pris la bonne police, la bonne taille, d'où le fait que j'avais le sentiment que les textes étaient un peu plus gros. En soi, ça se corrige très facilement, puisque sur InDesign, j'ai fait des calques pour chacun de ces éléments-là. Peut-être qu'un jour, si ça vous intéresse, je pourrais vous expliquer comment j'ai monté mon livre. J'ai pas fait ça toute seule la première fois, hein. Je me suis fait accompagner pour le premier et j'ai appris de cet accompagnement, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai été capable de faire le second toute seule. Et donc ça se modifie assez rapidement. Voilà, il suffit juste de modifier le paramètre du calque et tous les textes se remettent à la bonne taille. Après, bien évidemment, ça nécessite de faire de vérifier. Parce que les césures se font à différents endroits, parce que du coup il y a de l'espace ou à des endroits où il ne devrait pas y avoir d'espace. Donc j'ai passé un petit moment à revérifier quand même tous les textes, qu'on était bien sur la même disposition que celle que j'avais prévue initialement. Avoir une épreuve, ça permet aussi de voir toutes les petites fautes que vous n'auriez peut-être pas vues à la relecture. J'avais entendu dans un épisode de podcast quelqu'un dire que avant d'envoyer son manuscrit en impression ou à une maison d'édition, elle imprimait, elle le relisait sous trois formats différents. Première relecture sur l'ordinateur, deuxième relecture sur une liseuse ou sur un iPad, en tout cas un format d'une taille différente, troisième relecture sur papier, et quatrième relecture si budget sur livre. Parce que s'habitue à force de voir toujours la même chose sur le même format, et le fait de tester ces formats différents, ça permet de faire sauter, enfin d'attirer l'attention sur des différences qui nous auraient échappé. Et c'est vrai qu'en ayant le format papier sous les yeux, je me suis rendu compte que typiquement il y avait parfois j'avais oublié sur les belles pages de retirer le titre et la numérotation. Ce qui fait que pareil, c'est quelque chose qui se corrige très rapidement, mais que je n'avais pas vu quand on est omnubilé par ce qu'on fait et par son livre, on voit plus forcément certaines évidences comme ça qui nous apparaissent lorsqu'on a l'exemplaire dans les mains. Donc j'ai pu modifier ça, j'ai pu me rendre compte qu'il y avait certains éléments qui devaient être en italique que j'avais oublié de passer en italique, et j'ai pu aussi surtout voir ce que ça donnait, la disposition que j'avais prévue pour certains textes. Et je me suis rendu compte que j'aimais pas du tout le fait que parfois j'avais mis des textes au centre, parfois je les avais mis en haut, parfois j'avais dû faire des coupures de texte pour que la cohérence soit maintenue, mais que tout soit quand même plus fluide. Et je me suis rendu compte que j'aimais pas non plus les marges que j'avais définies. Bref, je me suis rendu compte que ce livre n'était pas encore prêt. Et l'une des choses que j'avais pas anticipées surtout, c'est que je me suis rendu compte que j'avais envie de l'illustrer. Donc j'ai décidé, en le voyant, qu'il manquait quelque chose, que même si j'avais décidé de que je ferais peut-être des illustrations, mais plus tard, dans un second temps, pour me laisser le temps de faire les choses tranquillement à mon rythme, je me voyais pas de sortir ce livre en fait sans illustration pour accompagner les textes. C'est vrai que la plupart des textes, si ce n'est tous, se suffisent à eux-mêmes. Vous avez sans doute déjà lu de la poésie dans laquelle il n'y a pas d'illustration. On va pas se mentir, quand on a lu Charles Baudelaire, il y avait clairement pas d'illustration dans ce livre. Voilà. Quand vous lisez, à part peut-être les contes, certains contes qu'on a pu avoir ou autres, c'est très rare qu'il y ait des illustrations, en tout cas la poésie classique à laquelle on a été habitué. Et même dans la poésie contemporaine aujourd'hui, si vous lisez, vous suivez quelques autrices en dehors de Rubicor, ou même quelques auteurs, vous verrez qu'il n'y a pas forcément d'illustrations dans les livres. Donc en soi, c'est pas indispensable. Mais voilà, je trouvais qu'il était un peu pauvre, un peu nu, sans ses dessins, donc j'ai bien fait d'imprimer cette épreuve-là, je me suis dit que j'allais rajouter ça. Donc ça fait partie des choses que vous pouvez aussi vérifier lorsque vous recevez une épreuve, donc regardez la police, regardez les agencements, regardez si vous n'avez pas laissé traîner de coquilles aussi, vérifiez encore une fois l'orthographe, la grammaire, la disposition des textes, s'ils sont bien centrés, si les marges sont les bonnes, si vous avez prévu d'utiliser le livre pour faire de la publicité sur vos différents supports de communication, c'est aussi important d'avoir une épreuve pour voir ce que ça rend. Si vous faites une photo de votre livre, de l'intérieur, du contenu, est-ce que c'est bien présenté? Est-ce que le fait que les textes soient au centre n'est pas un problème? Est-ce que le fait qu'ils soient en haut n'est pas un problème? Bref, en fonction de ce que vous avez prévu, c'est important d'avoir une épreuve sous la main. Et le fait d'avoir aussi cette épreuve sous les yeux et d'avoir le livre à côté du premier d'Au-delà de nos mots m'a fait réaliser que la couverture, même si très belle, même si j'ai eu beaucoup de retours positifs dessus, elle ne pouvait pas être celle que j'avais sous les yeux. Et je suis partie du coup sur une autre idée que j'avais eue au tout début, je crois, quand j'ai commencé à dessiner cette couverture que j'avais mis de côté. Mais finalement, je vais revenir dessus et je trouve que le rendu est plutôt pas mal. J'ai hâte de vous montrer. Peut-être que le jour où d'autres personnes écouteront cet épisode, bon, le livre sera déjà sorti, donc vous pourrez me dire ce que vous pensez de cette couverture qui serait donc différente du premier. Et c'est important aussi d'avoir la couverture dans les mains parce que c'est aussi important de la voir en numérique et de voir où est-ce que, en fonction du support sur lequel vous allez faire votre communication, donc si vous choisissez par exemple de vendre votre livre sur Amazon, de voir que parfois il faut peut-être privilégier une couverture qui attire le regard, qui est peut-être un peu plus flashy ou qui a des couleurs un peu vives ou un agencement de couleurs, une illustration qui attire le regard parce que sur Amazon ça se verra mieux, quitte à ce que quand vous l'imprimez ce soit un peu différent. Quand j'ai de différence, c'est plus en termes de perception et de ressenti. Moi je suis quelqu'un plutôt sobre, c'est peut-être pour ça aussi que mes textes sont minimalistes ou que finalement je me suis tournée vers la poésie pour l'instant. Je suis quelqu'un de plutôt sobre et c'est vrai que sur mes couvertures, ça m'est même pas venu à l'esprit de partir sur quelque chose de coloré, à part le jaune que vous avez, mais en tout cas de partir sur quelque chose de flashy, de pop, d'avoir une couverture de couleur. C'est peut-être quelque chose que je ferai plus tard, mais comme je mettais un peu beaucoup de moi dans mes livres et que je me présentais un peu à nu, j'avais besoin aussi d'une couverture un peu douce, un peu apaisante et un peu timide. C'est peut-être pas la meilleure stratégie. En fait, non, c'est pas la meilleure stratégie si vous faites de la publicité sur Amazon parce que la couverture peut se perdre parmi les autres. Mais en même temps, je suis pas non plus totalement éloignée de ce qu'on retrouve dans les codes de la poésie quand on fait de la publicité ou qu'en tout cas on soumet son livre sur KDP Amazon. Voilà. Donc c'est pas non plus totalement déconnant. Mais voilà, c'est un parti pris. Je ne dis pas que c'est la meilleure idée du siècle, mais c'est vrai que c'est important d'avoir ça aussi en tête quand on réalise sa couverture. Voilà, c'était ce que je voulais vous partager sur l'importance d'avoir une épreuve de son livre pour vérifier que tout est ok, de se prévoir aussi, de prévoir le temps de recevoir cette épreuve. Moi, ça a pris 3-4 jours avant qu'Amazon me l'envoie. Je me rappelle que pour le premier Au-delà de nos mots, ça m'avait mis dans la gadoue que ça prenne autant de temps d'avoir un exemplaire auteur, parce que ça avait décalé et retardé mon lancement, et il faut aussi anticiper ça. Donc par rapport à la date de lancement, pensez à prendre ce temps pour recevoir l'épreuve, et donc à anticiper un temps peut-être pour les corrections. D'où l'importance de faire ça au plus tôt et de l'ajouter dans votre calendrier de communication et de diffusion. J'espère que cet épisode vous aura apporté quelques réponses et que vous penserez bien à imprimer une épreuve de votre livre.
En attendant le prochain épisode du podcast La Voix des mots, tu peux suivre les backstage de ma vie d'autrice sur mon compte Instagram Mauna Poésie ou en rejoignant ma newsletter L'Essentiel. J'y partage mes illustrations et d'autres contenus et actualités liées à ma vie d'autrice et de lectrice. Si tu as une question, n'hésite surtout pas. Au plaisir d'échanger peut-être avec toi. À très vite!